La 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 la. Voilà, suite à un souci technique indépendant de ma volonté, malheureusement il n'y a pas de générique pour lancer cette émission La Méridienne. Je vous prie de m'en excuser, mais que cela ne gâche pas le plaisir que j'ai d'avoir avec moi en studio deux invités fantastiques. Tout d'abord une voix que vous connaissez déjà, il s'agit d'Antoine. Bonjour Antoine.
Bonjour.
Alors rappelons-le pour la xème fois, tu es donc stagiaire ici à Radio Campus Tours et étudiant en Master 1 en médiation des arts du spectacle. Juste avant, si vous avez été attentif, vous avez entendu le premier numéro du podcast Potemkin.
Potemkin, le podcast cuirassé.
Voilà, qui est la série que tu as produit dans le cadre de ton stage ici à Radio Campus. Et je me penche vers notre invité d'honneur du jour, en lien évidemment aussi avec le festival Désir Désir. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Alors, nous sommes très contents de t'avoir ici dans le studio. Et il me semble que tu nous disais avant le début de cette émission que ça fait quand même un moment que tu n'es pas venu chez nous. Donc, nous en sommes d'autant plus contents. Et alors, il se trouve que si tu es là dans le cadre du festival Désir Désir, c'est parce que tu y proposes une œuvre. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes ?
Tout à fait. Je vais créer donc vendredi une performance qui s'appelle Le Bain de Diane, que je crée avec Théophile Dubus. Voilà.
Et donc le bain de Diane, on voit que c'est quand même lié à la mythologie. C'est
tout
vraiment une thématique qui traverse ton œuvre.
C'est exactement ça, ouais. Ça traverse mon travail et puis ça traverse même mon corps, puisque je travaille beaucoup autour des Métamorphoses d'Ovid, donc qui, je pense, est officiellement l'œuvre la plus queer du monde. Donc voilà, la plupart de mes pièces en fait et des textes que j'écris ont pour base des mythes extraits des Métamorphoses d'Ovide, qui globalement en fait, bah voilà, c'est un projet trans autour de la question globalement des transformations, comme le titre du livre l'indique. Et de fait, je suis dans une entreprise de transformation moi-même, puisque en ce moment, j'essaye de transformer mon corps en édition vivante des Métamorphoses d'Ovide. J'ai commencé un grand projet de tatouage pour progressivement écrire le texte sur mon corps. Et donc là, dans le cadre du bain de Diane, on pourra avoir le deuxième tatouage, parce que bon, j'en suis au tout début. Hein, c'est un budget, puis ça fait un peu mal. Mais le projet avance.
Alors quand même, ça c'est quelque chose qu'on a envie d'interroger dans ton travail, ton rapport à ton corps et puis le rapport à la douleur, parce que je pense notamment à l'invocation à la muse. Donc là pour le coup il y a un engagement physique et il y a un travail autour de la douleur. Qu'est-ce que tu aimerais dire aux auditeurs sur ces questions-là ?
Peut-être je parlerai plus d'un rapport à la sensation que d'un rapport à la douleur. La douleur étant une perception subjective d'un certain type de sensation, mais on sait tous que justement, sous l'effet de certains états, et notamment de certains états érotiques, la question de la sensation en fait est transformée. C'est-à-dire que des choses qui peuvent être très douces peuvent être insupportables, et à l'inverse, des choses très violentes peuvent tout d'un coup être empreintes de douceur. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement de travailler sur la sensation que moi, je reçois comme interprète, mais toujours dans l'idée que ces sensations, par identification du spectateur et des spectatrices, est partagée en fait avec le public. Donc voilà, d'avoir un corps qui devient le vecteur de sensations qui sont ressenties par le public, ça, c'est une chose qui m'intéresse beaucoup. C'est la fameuse théorie des neurones miroirs, hein, qu'en regardant quelqu'un percevoir certaines choses ou faire certaines choses, une partie du cerveau en fait s'active comme si la chose qu'on regardait finalement on la vivait soi-même. La démarche dans laquelle je suis est une démarche vraiment très inclusive, dans laquelle je m'autorise à vivre des expériences que j'aimerais aussi, je pense, vivre comme spectatrice ou comme spectateur. Donc voilà.
Mais parce que tu fais une enquête de terrain aussi, si on peut dire, pour je pense à justement cette invocation à la muse, parce que t'as été testé sur place à Berlin par exemple.
Tout à fait.
Des pratiques particulières, hein, dont tu pourras nous parler si tu le souhaites, parce que il y a vraiment un investissement physique, psychique dans ta recherche en fait, dans ton travail. Donc tu nous le dis en fait que tu en viens même à incarner à écrire dans ta chair ce texte. Donc en fait, qu'est-ce que tu aimerais dire là-dessus, sur cette idée de tester avant des expériences de corps, d'état, avant d'en faire une création artistique?
C'est une super question, en même temps qu'elle est difficile, parce qu'elle pose la question en fait de la porosité entre la vie et l'œuvre, entre le travail artistique et la vie personnelle. Alors étrangement, dans ma vie, ces deux choses-là, elles sont très distinctes. C'est-à-dire que vraiment, ce que je fais au plateau, c'est très différent de ce que je vis dans ma vie. Et en même temps, l'un forcément nourrit l'autre. Mais j'allais dire que, justement, alors sur certains des terrains qui, moi, m'intéressent du point de vue de l'érotisme, donc notamment tout ce qui est pratique, on va dire... J'irais pratique alternative, comme par exemple la question du BDSM, donc du sadomasochisme, du bondage, de la domination. C'est effectivement des choses que j'ai été expérimenter à Berlin, parce qu'à Berlin, il y a une caractéristique qui est que le travail sexuel est légal et que donc en fait on peut travailler assez facilement avec des travailleurs sexuels qui sont aussi performeurs et artistes. Donc en fait, ça permet pour des personnes comme moi qui n'ont pas forcément ces pratiques-là dans leur vie quotidienne, d'avoir des outils pour comprendre ces choses-là et pratiquer ces choses-là de manière très progressive, d'apprendre des choses, d'apprendre des techniques, et se rendre compte qu'en fait, par exemple, sur la question du BDSM, qui a beaucoup de choses... ce que je disais, par exemple, qu'avant je ne les pratiquais pas, en fait, c'est plutôt que ces pratiques-là, quand on les a... permettre de prendre conscience du fait que dans plein d'aspects de notre vie, par exemple les questions de domination, de soumission, beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sont pas dans des rapports de soumission ou de domination dans leur érotisme, en fait, je pense souvent le sont sans forcément le savoir. Le rapport à la sensation, c'est la même chose, c'est-à-dire que le fait de travailler avec quelqu'un qui assume et qui explore ces questions-là, donc là je pense à ma partenaire Caritia Abel à Berlin, c'est quelqu'un qui me permet de pousser des choses qui sont en réalité déjà à l'état embryonnaire, je pense, dans toute sexualité, y compris la vôtre et la mienne, quoi. Je dirais que l'une des choses qui m'intéresse, c'est peut-être de décloisonner l'idée d'une normalité et d'une anormalité sexuelle. Je pense que c'est une frontière que j'essaye de flouter un petit peu, parce que je crois qu'il y a peu de sexualité, peu d'érotisme qui sont entre guillemets normaux, que les concepts de normes à cet endroit-là sont pratiquement tout le temps oppressifs, et que donc on a intérêt à penser ses propres pratiques sous l'angle de leur atypisme plutôt que de leur orthodoxie.
Et alors puisque tu le dis, hein, ta compagne là sur scène... et performeuse et dans cette culture BDSM de Berlin, mais alors est-ce qu'il n'y a pas une dimension documentaire aussi à ton travail?
Une dimension documentaire, je dirais pas ça, mais par contre évidemment je m'appuie sur beaucoup de documentation et beaucoup de recherches. Donc il y a effectivement une pratique de terrain qui est une forme d'accumulation d'expériences, de sensations, de connaissances aussi, hein, c'est très important. Par contre après, pour moi, il y a vraiment dans mon travail de création, la partie, je dirais, fictionnelle d'une part, elle est très importante, donc j'opposerai la fictionnelle à documentaire. C'est-à-dire que justement, parce que je me ressaisis pratiquement tout le temps de ces mythes, il y a vraiment tout le temps pratiquement une fable narrative dans mon travail qui sort du côté documentaire. Par exemple, Caritia Abel dans l'invocation à la muse. Donc effectivement, Caritia est travailleuse du sexe et dominatrice, mais dans cette performance, elle intervient comme une figure de la muse. Donc elle met à profit ses compétences, mais elle joue un rôle qui est celui de la muse. De la même manière, moi, dans le Bain de Diane, que je joue donc vendredi au Musée des Beaux-Arts, j'ai fait des recherches pour cette performance, mais dans le cadre de cette performance, je joue un rôle qui est celui d'une nymphe échappée d'un tableau. Donc il y a toujours en fait un biais fictionnel qui, pour moi, écarte ma pratique d'un théâtre que j'appellerais documentaire.
Mais alors, l'idée aussi de faire entrer un texte dans ta chair, dans ta peau, parce que ça fait penser aussi à Orlan, par exemple, qui travaille avec son corps. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où la réalité et la fiction vont fusionner? Comment tu vas faire Parce que si donc tu es une nymphe quand tu es en scène, sur scène, tu es Vanassai quand tu n'es pas sur scène, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment où en fait tu ne pourras plus être si tu fais entrer dans ta peau en fait un texte, comment ?
Bah c'est une bonne question. Pareil, c'est vrai que le tatouage à cet égard et toutes les pratiques du body art, tu parlais d'Orlan tout à l'heure, m'intéressent parce que en fait elle crée, je dirais, des espèces de zones communes entre la fiction et le réel. C'est-à-dire que effectivement un acteur qui est tatoué, quand il monte son tatouage sur scène, est-ce que c'est le personnage qui est tatoué, est-ce que c'est l'interprète qui est tatoué, en l'occurrence il y a une zone là d'indécidabilité qui m'intéresse. Donc cette zone de flou, oui, elle m'intéresse. Après, encore une fois, dans ma tête les choses sont relativement claires. Dans ma pratique, la question du trouble, du floutage de ces frontières là m'intéresse. Mais après, je sais pas si je réponds à ta question, du coup, dans ma tête, les choses sont quand même relativement distinctes.
J'ai oublié la question, donc en fait, ta réponse m'intéresse plus que la question qui était posée initialement. Antoine, je me tourne vers toi, est-ce que tu as envie d'ajouter quelque chose avant que nous fassions une pause musicale, puisque champagne, l'ordinateur remarche.
Moi, j'aurais aimé savoir pourquoi s'intéresser d'abord à Diane.
Alors, pourquoi s'intéresser à Diane ?
Est-ce que tu peux nous rappeler qui c'est ?
Bien sûr. Donc, Diane, c'est la déesse de la chasteté dans la mythologie latine. Dans la mythologie grecque, elle s'appelle Artémis. Donc, c'est la déesse de la chasteté et de la chasse en même temps. C'est celle qui rivalise avec les hommes sur le terrain très masculin qui est celui de la chasse. Ce qui fait que c'est une figure qui, en soi, est déjà très ambiguë d'un point de vue sexuel. Et par exemple, dans le film de Christophe Honoré sur les métamorphoses, je crois qu'elle est interprétée par une femme trans. En tout cas, c'est une femme qui... c'est une figure qui a à la fois une poitrine féminine et je crois me souvenir qu'elle a un pénis. Donc voilà, c'est une espèce de figure de l'androgynie, de l'hermaphroditisme, qui sont en soi des figures, moi, qui m'intéressent. Puis, donc cette pièce, en fait, c'est vraiment une pièce qui est créée pour les musées. Donc on est très content de jouer là au musée de Tours et de créer cette pièce au musée de Tours, dans le cadre du festival Désir Désir. Parce que le mythe de... l'un des mythes les plus connus autour de Diane, c'est le mythe d'Actéon. Donc Actéon, qui est ce chasseur qui surprend Diane de retour de la chasse en train de se baigner dans une source. Et Diane, donc, qui est très jalouse de son intimité, de sa nudité, qui ne veut pas être vue, a fortiori, par des hommes, donc punit Actéon en le transformant en cerf. Et Actéon, donc, ce chasseur transformé en cerf, se retrouve être la proie de ses propres chiens, qui se retournent contre lui et qui le dévorent. Donc, c'est vraiment le mythe d'Actéon qu'on aborde dans cette création. Puisque le mythe d'Actéon est un mythe qui pose à la fois la question du regard interdit, ce qu'on n'a pas le droit de voir, et puis qui pose la question du désir, puisque il est question d'un désir qui se retourne contre celui qui le ressent, puisque le chasseur devient un chassé, puisque celui qui veut dévorer du regard se retrouve dévoré par ses chiens, en l'occurrence. Donc... le musée, désir, c'était un peu la conjonction parfaite, en fait, pour aborder toutes ces problématiques à la fois de la vue et du désir.
Alors, tout de suite, une pause musicale inédite sur Radio Campus Tours, et je n'en dis pas plus, écoutons ça et discutons après. Vous écoutez La Méridienne. Oh, Écoutez La Méridienne sur Radio Campus Tours et nous écoutions Mireille Delunch. Voilà, c'était la folie dans le platé de Rameau et voilà, c'était une mise en scène de Marc Minkowski. Donc ça date un peu, hein, ça date de 2003. Alors, chers invités, qu'est-ce que vous aimeriez dire sur cette musique et sur cette mise en scène que vraiment on vous recommande, même si c'est un peu vieilli?
Bah moi j'adore. J'adore. Mon rêve, c'était d'être chanteuse quand j'étais enfant. J'ai fait beaucoup de chant. J'ai commencé en fait à l'opéra quand j'avais 11 ans. J'ai chanté Bastien dans Bastien et Bastienne de Mozart à l'opéra de Rennes. J'ai enchaîné sur pas mal de productions en fait. Puis j'ai continué à chanter, donc à faire du chant lyrique jusqu'à environ l'âge de 30 ans, donc il y a une dizaine d'années. Et mon répertoire de prédilection, c'était précisément le répertoire qu'on entend là, c'est-à-dire le répertoire français des 17e et 18e siècles. Donc ça, vraiment, j'adore, je pourrais en parler pendant des siècles. Je trouve que cette musique est sublime, je trouve que les textes sont sublimes. Contrairement à ce qu'on dit souvent, je trouve que les livrets sont d'une très très grande puissance. En plus, vraiment, on est à fond là sur l'imaginaire mythologique. D'ailleurs, Platée, c'est l'une des métamorphoses aussi. Enfin, voilà. Donc vraiment, c'est une musique qui me bouleverse et en même temps, moi, dans mon rapport au chant baroque et notamment à ce type de musique, il y a toujours quelque chose d'un peu douloureux en fait en même temps que j'écoute cette chose-là, parce que quand j'entends ces voix, quand je vois ces chanteuses, je sens toujours la figure que j'aurais voulu être et que je, en fait, en un sens, je n'arrive pas à être, quoi. Et en même temps, j'y travaille, donc je pense à ça parce que dans le bain de Diane, il y a du chant et il y a un moment où je me fantasme à l'intérieur de cette figure-là, plus ou moins. Mais comme souvent dans le fantasme, il y a cette chose douloureuse aussi qui est creusée, qui est l'écart entre le réel et l'aspiration, quoi. Donc, moi, j'adore cet air qui, en plus, est une espèce de célébration de la folie. Et qu'en tant que folle revendiquée, il y a vraiment une chose dans cette thématique qui me parle infiniment, quoi. C'est terrible la manière dont le mot folle a pu être utilisé de manière... C'est quoi le mot déjà? Méchante pour désigner celles qu'on appelle les folles. Alors que de fait, leur folie est salutaire pour nous permettre d'entrevoir d'autres possibles, pour nous permettre d'échapper à la norme. Et là, je suis les conseils de mes amis et notamment de certains de mes anciens étudiants qui me disent, et étudiantes qui me disent, mais vraiment, c'est pas possible que tu connaisses pas mieux l'histoire de la folie à l'âge classique de Foucault, qui est vraiment sur la question de l'invention de cette figure de la folie comme une autre lecture possible du monde, en fait, qui du coup va être bien sûr pathologisée, mais qui, si on la prend depuis un angle qui n'est plus celui du diagnostic, mais celui de la poétique, permet au contraire d'envisager d'autres possibles qui sont, quand ils ne sont pas douloureux, qui peuvent être à l'inverse radieux et merveilleux.
Personnellement, moi j'adore ce système, l'opéra, les costumes, les jeux, etc. J'aime beaucoup en fait les représentations de la folie dans l'art actuellement, parce que de plus en plus ça nous donne, comme le disait Van Assay, une vision de notre monde différente, et on peut justement évoluer vers de nouvelles choses. Et je vois que même si tu disais que ça existe depuis 2003, elle est encore d'actualité. Et on peut voir cette folie encore de nos jours, mais peut-être de différentes façons, mais on peut toujours la voir.
Alors, Van Assay, est-ce que c'est à dire aussi que, en fait, quand tu es sur scène, tu es accompagnée aussi par toi, chanteuse et pour autant, est-ce qu'il y a d'autres féminines est-ce qu'il y a d'autres figures féminines qui t'accompagnent quand tu es sur scène, d'autres absentes?
Ah, oh bah oui, Françoise, qui est mon alter ego féminin, qu'à l'âge de ma mère, en gros, qui est un personnage très important. Oui, je pense que, pour le coup, moi, je suis dans une pratique, la pratique qui m'intéresse de performeur, c'est une pratique qui a trait quand même à des formes de spiritualité ou de recherche de transe. C'est ça qui m'intéresse aussi comme spectateur, c'est de voir des personnes en transe sur le plateau. Donc c'est des choses que je cherche, hein, et quand je suis sur scène, je cherche à convoquer mes fantômes. Donc les fantômes de la chanteuse lyrique que je ne suis pas tout à fait, les fantômes de ces déesses, de ces nymphes que je ne suis pas non plus, de ces héros aussi, parce que les fantômes qui m'habitent sont variés, nombreux, de tout genre, de tout sexe, d'ailleurs... Enfin, la question de l'imaginaire animal aussi est présente dans le bain de Diane. Donc oui, il y a beaucoup d'absentes auxquelles j'essaye de donner voix dans ma pratique de performeur.
Est-ce que c'est juste, est-ce que ça s'approche de la Nekuya?
Alors, je veux bien que tu m'expliques ce que c'est, parce que je suis
l'invocation des morts, Alors, je regarde en même temps parce qu'Internet est mon ami. Donc, comme ça, je vais avoir une définition précise. J'approche l'écran pour ne rien vous cacher, parce que je n'ai pas non plus une vue de lynx. Un rituel sacrificiel lié à la mythologie grecque, ayant pour but d'invoquer les morts dans un nécromancien. C'est aussi en particulier le titre donné au chant 11 de l'Odyssée.
D'accord. Oui. En tout cas, ce que je peux dire de ça, c'est que oui. Je travaille beaucoup sur la question du rituel. Là, ça, c'est la première chose. C'est que ma pratique artistique, elle est très, très ritualisée. D'ailleurs, je fais beaucoup rire mes collaboratrices et collaborateurs et mon équipe artistique d'une manière générale, parce que donc, je répète souvent au Théâtre Olympia. Puis il y a Nico, l'un des techniciens, qui me dit un jour, oh, tu recommences avec tes trucs de chaman, là, parce que j'avais fait brûler de l'encens dans la salle de répétition. Enfin bon, c'est le genre de choses, moi, c'est important pour moi. J'y attache pas, en fait, de valeur ontologique particulière. Par contre, je sais que ça m'aide à être dans des états, justement, de sensations qui sont propices à l'inspiration pour moi. Donc oui, je pratique, ma pratique, elle est très rituelle, pour le premier aspect de ce dont tu parlais, et pour le deuxième, qui est peut-être plus important, qui est la question des morts, oui, absolument. La question des morts, elle est très importante pour moi. L'année dernière, j'ai créé un spectacle qui s'appelle Orphée à Faune, dont le point de départ est un deuil et une tentative de communiquer avec les morts. Donc forcément, pour communiquer avec les morts, on sait que la communication normale ne marche pas, donc il faut être créatif à l'endroit de la communication pour pouvoir parler avec eux, mais je dirais que il y a une autre chose qui est très importante, c'est que pour moi, la pratique artistique, parce qu'elle elle, elle s'ancre dans des pratiques qui dépassent le cadre de la vie humaine. C'est des pratiques qui sont à la fois des échos de choses du passé et puis des espèces de prémonitions de choses à venir. C'est une façon d'embrasser sa propre mortalité, toujours. Donc moi, je sais que j'essaye de faire du théâtre et des œuvres pour la personne morte que je ne suis pas encore et pour les futurs fantômes que sont les spectatrices et les spectateurs. Ouais, c'est important pour moi.
Est-ce que tu te penses comme un voyage dans le temps? Ça te fait rire. Je ne sais pas si c'est parce que la question est bête.
Non, pas du tout. Oh, non, elle est belle même. Ouais. Non, mais c'est sûr. C'est sûr que je me pense comme un voyage dans le temps. Je pense que le... Alors, je précise que quand je parle de ce que je fais, en fait, je parle pratiquement tout le temps de choses que j'ai ressenties comme spectatrice ou spectateur et que du coup, je suis juste à la recherche de retrouver des sensations que j'ai connues moi-même en regardant des spectacles. Mais pour moi, les grandes émotions artistiques sont des émotions qui précisément transcendent le rapport au présent. C'est-à-dire que quand on écoute une œuvre d'art qui nous bouleverse, par exemple, quand on voit une œuvre d'art qui nous bouleverse, ce qui nous fascine, c'est la sensation que cette émotion a quelque chose qui échappe totalement à l'individu qui est en train de la ressentir, que c'est une émotion qui est à la fois extrêmement individuelle et extrêmement collective, puis que justement, elle transcende aussi la catégorie de temps, quoi. Et ça peut se vivre sur des très grandes échelles. Je pense évidemment, prenons un exemple parmi tant d'autres, mais Stonehenge, je pense, provoque des émotions qui, pour le coup, vraiment transcendent la notion de génération, puisque ça fait des générations que ça dure. Mais je dirais qu'à des micro-échelles, parce que je m'intéresse par ailleurs aussi beaucoup à la pop culture d'une manière générale, enfin, c'est quelque chose qui est important pour moi dans mon travail, parce que c'est aussi des œuvres auxquelles je suis très, très, très sensible, parce qu'elles sont extrêmement partagées, et il y a de la question de la culture pop, elle intervient d'ailleurs dans Le Bain de Diane, mais c'est rigolo, comme par exemple certaines chansons de Britney Spears, qui est une artiste que j'aime beaucoup. On voit bien celles de ses œuvres qui transcendent quelque chose de l'ordre d'une génération, et puis celles qui, à l'inverse, sont... Il y a les chansons qui durent un an, il y a les chansons qui durent 10 ans, il y a les chansons qui durent un siècle, il y a les chansons qui durent des millénaires, quoi. Ces échelles-là, elles m'intéressent, en fait. Quand tu parles de voyage dans le temps, je dirais que c'est ça qui m'intéresse, peut-être, de voyager entre des échelles microscopiques de temps, puis des échelles super macroscopiques de temps, à l'inverse. Tu vois ce que je veux dire ?
Je le ressens en tout cas, bon. Mais est-ce que c'est juste? Je ne sais pas, comment savoir.
Bah, j'aime bien le fait qu'au théâtre, des fois on a l'impression de vivre une chose totalement infime, enfin vraiment quelque chose d'hyper contemporain ou de quelque chose d'hyper éphémère dans le sens où ce sera vraiment demain, on l'aura oublié et ce sera mort. Puis à l'inverse, que des fois aussi on vit des choses qui nous donne la sensation d'être au monde dans un sens très très large, d'être dans ce monde qui a commencé bien avant nous et qui, on l'espère, ouais, terminera bien après.
Alors, peut-être que les personnes nombreuses qui viendront voir Le Bain de Diane, qui sont venues voir tes autres spectacles et performances, peut-être qu'à un moment ils se sont dit, en te voyant, c'est moi. Et cette idée, alors que tu peux être aussi le support de ces autres vies, en fait, que les gens se disent « Ah, juste ça, c'est moi sur scène, en fait. » Est-ce que, comme tu le dis, tu es une chanteuse, tu es aussi un performeur, enfin, tu es mille choses. Et en fait, cette idée que les gens peuvent aussi se trouver, en fait, dans ce que tu proposes.
Bah, pour moi, c'est important, ouais. C'est important. Après, la chose qui est assez bizarre, c'est que... c'est quoi déjà la première phrase du discours de la méthode? Je pense à cette question de la chose du monde qui est la mieux partagée. Paradoxalement, je pense que c'est l'intimité, la chose du monde la plus partagée. Et que paradoxalement, si on arrive à débarrasser l'intime de l'anecdotique... Il y a quelque chose dans nos expériences les plus singulières qui sont extrêmement universelles, en fait. Et c'est une chose dont j'ai eu peur à un moment dans mon travail, parce que j'avais peur du fait qu'en travaillant sur des choses personnelles, ça cloisonne l'œuvre. Et en fait, je me rends compte que si vraiment j'arrive à toucher le point où où l'intime résonne, justement, par des phénomènes de transposition ou de transformation, chacun comprend ce dont il est question à l'intérieur du travail, quoi. Donc c'est cette zone d'intimité que je cherche à trouver qui soit un intime partagé, en fait. Ce qui est très paradoxal, mais ça, pour moi, c'est la magie du théâtre, peut-être encore plus que du cinéma, parce que dans le théâtre, cette question de l'intime partagé, alors a fortiori dans la configuration actuelle des théâtres, on est tout d'un coup, voilà, entre... Enfin, ça dépend évidemment des publics, mais on est 20, 50, 500 personnes à partager un temps d'expérience commune avec les interprètes. Et c'est en même temps, donc collectif par définition, et en même temps la subjectivité de chacune et chacun est vraiment, je crois, valorisée à sa place.
Moi j'aurais eu une question. Sachant que tout ce qui est métamorphose et texte antique, de base c'était des chants, et que tu nous parles beaucoup de musique, du fait que tu aurais aimé être chanteuse, etc. Est-ce que toutes tes créations, ce serait pas une façon d'essayer de rechercher la voix qui a disparu depuis, justement, on parlait aussi de transcendance du temps, cette voix qui a disparu, du coup, qui n'est plus que dans des textes, de la Grèce antique et de tous ces textes qui nous sont, qui ont traversé les âges.
Mmh. Chercher la voix perdue, ça c'est sûr. Mais la question qui m'intéresse, c'est de savoir finalement si cette voix, elle a jamais existé. Parce que par exemple, tout le travail de reconstitution, que ce soit d'ailleurs à l'époque baroque, et moi j'ai beaucoup chanté avec des ensembles justement de musique ancienne qui sont sur des pratiques de ce qu'on appelle les pratiques musicales, enfin historiquement informées. En fait, on voit bien qu'on cherche à attraper des fantômes aussi quand on fait cette chose-là. Et si on remonte, par exemple, chez les antiquisants, on voit bien que oui, on a des documents sur ce qu'a été le théâtre latin, le théâtre grec, mais ces voix, en fait, c'est toujours des fantasmes. Et je ne suis pas sûr que ces voix qu'on imagine, elles aient jamais vraiment existé. C'est pas très clair ce que je dis, mais cette question de la chasse aux fantômes et du fantôme vocal en particulier, ouais, c'est une question qui est transversale dans nos vies, enfin dans ma vie, oui, mais j'en parle au pluriel parce que bah la voix des morts, quoi, c'est un truc qui est super important pour moi et c'est marrant parce que quand on perd les gens, justement, c'est beaucoup. C'est beaucoup la question de leur voix aussi qui nous hante comme une espèce de dernière trace qui pourrait nous rester. Et en même temps, le problème, c'est que quand on essaye de se souvenir, par exemple, de choses que les gens qu'on a perdus nous ont dites, en fait, on enferme leur voix dans des expressions qu'elles ont eues à un moment, mais qui ne sont pas représentatives de la potentialité de ce que leur voix était du temps où ces personnes-là étaient vivantes, quoi. Ce qu'on voudrait, c'est que les gens qu'on a perdus puissent nous dire les choses qu'ils nous ont jamais dites, paradoxalement, justement. Donc, l'un des grands chantiers, c'est d'accepter le silence de la voix, justement. Le fait que la voix la plus belle et celle qui est la plus riche de tous les potentiels, c'est paradoxalement peut-être celle qui, contrairement à moi, se tait, quoi. Bon, en même temps, j'en profite parce que je serai mort relativement longtemps après ma mort, donc tant que j'ai le temps de parler, j'essaye de dire des choses.
Alors, vive la radio. Et c'est aussi une fabrique de fantômes sonores, la radio. Incroyable, là, pour le coup. Peut-être que nous n'existons pas, auditeurs. Allez, j'arrête de dire n'importe quoi pour quelques minutes et je vous propose une seconde pause musicale dans cette méridienne, et on se retrouve tout de suite après.
J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin, pas comme il faut. Ceux qui, avec leurs chaînes, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur. Pour n'avoir pas su dire, délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier les choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltonien de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais quand ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, on leur crie merci d'avoir vécu. Merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu.
La merveilleuse Anne Sylvestre sur Radio Campus Tours. Je ne perds pas d'occasion de diffuser cette grande chanteuse française. Et je pense, Vanessa, que ça t'a fait plaisir d'entendre Anne Sylvestre.
J'adore.
Moi, j'avoue que je l'ai découvert en fait avec Sébastien Bost à notre dernière méridienne sur Barbara. Donc,
Mais alors, il me semble, Vanessa, que tu as chanté cette chanson exactement dans le cadre d'une performance. Est-ce que tu veux nous en dire deux mots?
Ouais, j'ai fait une reprise de cette chanson avec Rubin Steiner dans le cadre d'une émission sur France 3 qui s'appelle Renversant. Et c'était super, c'était l'occasion de collaborer avec Rubin, qui est vraiment un artiste dont j'adore le mélange de profondeur et de légèreté. Parce qu'en fait, en vrai, c'est vraiment facile de travailler avec lui parce qu'il est joyeux. Donc ça, c'est vraiment génial. Je dirais qu'à ce niveau-là, on s'équilibre pas mal. Non, et puis cette chanson est merveilleuse dans ce qu'elle raconte. C'est une chanson moi que j'ai découvert par ma mère qui est quelqu'un qui doute beaucoup, et c'est une chanson qui me fait penser à beaucoup de gens que j'aime et qui de fait doutent beaucoup.
Est-ce que tu as des questions pour notre invité Antoine?
Oui, j'aurais quelques questions, notamment tu as déjà travaillé avec Théophile Dubus plusieurs fois, notamment sur Le Marchand de Venise. Comment se passe cette collaboration, parce que vous venez de mondes un petit peu différents quand même?
Oui, alors on vient de mondes différents, mais en même temps on a beaucoup de choses en commun. On s'est rencontrés parce que Théophile a fait partie de l'ensemble artistique du Théâtre Olympia comme comédien pendant 2 ans, au moment où moi j'étais encore permanent du Centre Dramatique. Donc en fait, j'ai fait plusieurs créations avec lui, en effet, et c'est quelqu'un dont j'adore la sensibilité, comme interprète et puis aussi comme auteur, parce que l'une de ses particularités, c'est qu'il écrit, il écrit beaucoup. Il dirige une compagnie qui s'appelle Feu un rat aussi, et qui est en résidence toute l'année là au Volapük. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est précieux, qui est vraiment mon collaborateur régulier là à Lapsus Chevelu, la compagnie que j'ai créée à Tours, parce que il comprend les enjeux à la fois artistiques, esthétiques et politiques de la compagnie, dans une recherche aussi de création de communautés de création, justement, qui déhiérarchise un petit peu les pratiques. Donc, par exemple, Théophile, dans Orphée à Faune, c'était lui qui était l'auteur de toute la partie improvisée du texte qui s'affichait pendant le spectacle, et c'est une pratique qu'on souhaite continuer. Puisque par ailleurs, c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie énormément l'écriture, qui a un rapport comme... Enfin, on est assez proche, en fait, hein, sur la question, par exemple, du rapport à la culture pop, à la culture classique. Alors, en même temps qu'on a des approches différentes, c'est des centres d'intérêt communs. Et donc là, sur Le Bain de Diane, il est co-auteur avec moi du texte, et puis il fait tout le travail de direction d'interprète qu'il avait déjà fait sur Orphée à Faune, où c'était aussi... principalement lui qui me dirigeait comme interprète.
Tu viens notamment de nous parler de ta compagnie, Lapsus Chevelu. Tu pourrais nous en parler un petit peu ?
Oui, donc Lapsus Chevelu, c'est une compagnie que j'ai créée en 2017, qui a trois créations à son actif. Donc L'Invocation à la Muse, dont on parlait tout à l'heure, qui a été créée au Festival d'Avignon en 2018, Orphée à Faune en 2019, et là donc troisième création avec Le Bain de Diane, avant une quatrième création qui aura lieu en mars prochain, toujours avec l'ensemble artistique du Théâtre Olympia, qui s'appelle Monument Hystérique, et qui sera créée dans le cadre du Festival WET, donc le Festival de Théâtre Émergent du Théâtre Olympia. Cette compagnie, c'est ce que je dis, pas que par boutade, c'est que c'est une compagnie qui a pour projet de transformer le monde, donc révolution esthétique, mais donc révolution politique aussi, hein, forcément, les deux sont liés. Certains nous disent qu'on est un peu ambitieux, mais après ça commence quand même toujours par la révolution des subjectivités, hein, de réussir à voir le monde autrement, et à l'intérieur de soi déjà. Et je crois que le théâtre, justement, c'est vraiment précieux pour ça, parce que en fait, le théâtre, pour moi, justement, vraiment offre un regard queer, c'est-à-dire presque étymologiquement de biais, sur le réel, puisque quand on va au théâtre, on voit des choses réelles, sauf qu'on voit une réalité qui est fabriquée, transformée par les outils de la représentation théâtrale. Donc moi, je pense que vraiment, le théâtre est un endroit parfait pour remettre en question notre perception du réel. Alors après, avec un danger qui est réel aussi, c'est que précisément, le théâtre peut devenir un outil de propagande, un outil aussi de diffusion d'idéologie normative. Je dirais presque que ça fait partie de son ADN. Hein. Je parlais de mon amour de la culture française du XVIIe et XVIIIe siècle, mais justement, il y a des utilisations politiques de l'art qui sont faites à ce moment-là, qui sont vraiment problématiques dans les pratiques artistiques, qui sont hyper centralisées, hyper institutionnalisées. La compagnie Lapsus Chevelu, elle aspire à être en dialogue avec l'institution. Donc là, j'ai la chance, moi, d'être artiste associé au Centre Dramatique de Tours. Mais justement, c'est cette position de dialogue, voire de contradicteur qui m'intéresse. Donc, ce qu'on cherche à proposer, c'est des esthétiques alternatives. Des esthétiques alternatives qui sont en dialogue, évidemment, avec la culture institutionnelle, mais qui résiste aussi à cette culture.
Est-ce que tu as déjà d'autres envies après Le Bain de Diane pour d'autres mythes qu'on retrouve dans les métamorphoses ?
Tout à fait. Je prépare un spectacle pour 2021, dont je ne peux pas dire grand-chose encore, mais qui tourne toujours autour de la question des métamorphoses. C'est de nouveau un spectacle qui se nourrit, qui cherche à disséquer une figure mythologique majeure. C'est un spectacle dans lequel il sera énormément question de voix, avec des interprètes qui la voix est une question centrale et névralgique. Puis peut-être, ce que je peux dire, c'est que c'est un spectacle aussi dans lequel la question de l'amour sera très, très, très présentée, notamment comment est-ce qu'on guérit de nos chagrins, comment est-ce qu'on guérit de nos chagrins d'amour ? Et comment est-ce qu'on invente peut-être des érotismes, voire des pornographies qui guérissent au lieu de blesser ?
Tu nous parles d'érotisme, justement, juste avant, on parlait un petit peu d'un roman, enfin d'une étude qui s'appelle Arbre, fille et garçon fleur, sur les mythes de l'érotisme. Quelle place a l'érotisme, toi, dans ta création? Parce qu'on voit qu'elle tient une place assez importante, mais elle correspond à quoi pour toi?
L'érotisme, c'est la base. Hein. l'érotisme, c'est hyper important. Je dirais que il y a peu de choses qui m'intéressent autant que les états érotiques. Cette sensation qu'on a de vibrer dans l'érotisme, mais donc dans la question de l'amour, parce qu'il y a une dichotomie qui s'opère souvent entre sexualité et émotion, alors qu'on sait aussi à quel point ces deux choses-là peuvent être liées. Pour moi, en tout cas au plateau, j'essaye de trouver un espace de circulation entre la dimension émotionnelle et la dimension sexuelle. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la question du pas de côté. Hein. La compagnie s'appelle Lapsus Chevelu parce que justement elle est une célébration de l'erreur créative. Donc ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de se reconnecter pour chacune et chacun avec cette expérience érotique inattendue qui en même temps a été révolutionnaire. Quoi. Cette chose qu'on n'attendait pas, qui a remis en question nos normes érotiques, et en même temps on s'est dit « Ah !» Il y a à travers l'érotisme une zone de moi là que je découvre, une zone sensible, une zone précieuse. C'est ce que j'aimerais bien réussir à faire avec certains de mes spectacles, que la question érotique telle qu'elle y est abordée en fait aide chacun à questionner ses représentations de normes et son goût de l'aventure.
Alors moi j'ai une question, puisque tu annonces un travail à venir autour de la voix, en tout cas des gens pour qui la voix est précieuse, est-ce qu'on peut caresser l'espoir qu'il y ait une version radiophonique?
Non mais alors ça, non mais moi j'adorerais faire du travail radiophonique, et d'ailleurs c'est marrant parce que donc l'auteur sur lequel j'ai fait ma thèse, qui s'appelle Howard Barker, c'est quelqu'un qui a beaucoup écrit du théâtre radiophonique justement avec toute une fascination pour la radio comme moyen de communiquer justement avec les voix fantômes, avec les voix des morts, etc. Et je pense que plusieurs des textes que j'ai écrits, et là je pense en particulier à Orphée à Faune, je pense qu'Orphée à Faune c'est une pièce qui tout à fait pourrait se prêter à un travail radiophonique. J'adorerais cette chose-là, puisque la question de la concentration sur la voix, elle est centrale pour moi. Oui, la radio est un vecteur génial pour ça. Et puis justement aussi, c'est marrant parce que la radio est un vecteur de fantasmes énormes, parce que la voix se faisant entendre en l'absence du corps, il y a une capacité de projection et d'imaginaire sur le corps qui me fascine totalement, ouais. Donc, spectacle radiophonique, ouais, carrément. Après, il y a plein de compagnies qui travaillent sur ces créneaux en ce moment-là et qui font des propositions géniales. Peut-être que certaines auditrices et auditeurs ont vu, par exemple, un spectacle qui s'appelle Pileta Remix dans le cadre du WET il y a quelques années, qui est la création d'un spectacle radiophonique en direct au plateau et qui est, voilà, une proposition vraiment géniale. Il y a beaucoup de propositions fantastiques à cet endroit-là, mais oui, je crois que contrairement à ce qu'on peut s'imaginer, la radio et le théâtre ont beaucoup de choses à se dire, et je pense évidemment à un autre spectacle dont je n'ai pas parlé, mais qui est le spectacle Nous allons vivre du collectif Nightshot, qui pose aussi la question, donc un collectif tourangeau, et qui pose la question de la radio aussi de très très belle manière.
C'est un sujet qui nous intéresse à Campus, et vraiment, enfin, que moi je trouve passionnant, cette idée de comment on incarne quelque chose à la radio, il n'y a pas de corps. Et du coup, quand on est comédien, qu'on a un rapport à l'espace particulier, il s'évanouit quand on est derrière un micro. Comment on incarne quelque chose?
Mais en même temps, moi je trouve ça génial, parce qu'on parlait tout à l'heure de l'échelle entre le macro et le micro. C'est le cas de le dire. Justement, la radio, elle permet une concentration sur le micro, elle permet de de faire entendre des choses infimes de la voix. Et c'est marrant parce que même quand on parle à la radio, tout d'un coup, c'est comme si toute l'attention du corps se concentrait sur la gorge, sur l'appareil vocal, sur la respiration. C'est un exercice presque méditatif que je trouve super agréable de concentrer son attention vraiment sur ces choses infimes.
Après, ça n'appartient qu'à moi. Peut-être que tous nos auditeurs ne sont pas d'accord, mais je pense que la radio, c'est du théâtre. Je pense vraiment que la radio, c'est du théâtre.
Ça peut l'être très certainement. Ouais. Ça peut l'être très certainement.
Donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez appeler au 0247. Je plaisante. Mais cette émission, malheureusement, touche déjà à sa fin. Alors peut-être qu'on peut rappeler où et quand on peut voir cette performance dans le cadre du festival Désir Désir.
Le Bain de Diane, donc ça se jouera vendredi 24 janvier à 18h30 et 19h15 au Musée des Beaux-Arts de Tours, place François Sicard. La jauge est limitée, parce que c'est une expérience intime, donc il faut réserver auprès du musée. Et juste, si moi je peux redire ma joie aussi de participer au festival Désir Désir et contribuer à la visibilité des communautés LGBTQI sur Tours, c'est vraiment, je suis très 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 heureuse d'avoir cette occasion de faire ça dans le cadre du festival.
Antoine, le mot de la fin.
Diane.
D'accord, et on rappelle, pardon, je tousse pour le dire mieux, que ton podcast sera à nouveau diffusé à l'antenne avant l'émission sortée.
Tout à l'heure, oui, à 16h.
C'est ça, 16h, voilà. Ouvrez grand vos oreilles, chers auditeurs. On vous souhaite une excellente journée et puis on va se quitter en écoutant une voix masculine qui chante avec une voix féminine. On va écouter Bertrand Belin qui chante avec Barbara Carlotti. Lentement, parce que la radio aussi, c'est du temps. Donne le temps de discuter. Grand merci à vous deux, en tout cas, d'être venus dans cette émission.
Merci beaucoup.
Planche, cou, couteau,
bijoux,
bouteille,
sous,
bibelot de Lourdes,
marée haute,
arithmétique,
Noël,
Père Noël,
tabac,
obus,
un passant qui pue,
la nuit, cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui, pour qu'il pleuve sur lui. Notre-Dame en feu qui rougeoie dans la nuit la vache,
le poing d'un mec sous, écrasé sur une bouche,
carton,
citron,
étron,
pinson,
coton,
dindon, gazon,
avion,
majesté,
vitesse du son. Cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse indien pour lui,
pour qu'il pleuve sur lui.
Tout s'efface lentement, tout lentement. Comme un os, blanc comme un os, le temps est si doux,
grêle,
toi,
bruit,
Barbara,
la foutue manie qu'il a de traîner son passé d'art,
Kadhafi campant dans les jardins de l'Élysée, moi,
dégustant mon sorbet cassis devant la télé,
nu,
clope,
rideau,
paradis,
cette fois derrière le stade où tu as fait ta danse d'Indien pour lui,
ça cueillait des mains,
le sexe pointu du chien des voisins qui nous faisait machin,
l'arrivée magique des kiwis,
le mariage inattendu de Romola de Pulski
avec Nijinsky.